Matin.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, cette semaine direction l'Amérique avec un roman feuilleton, un petit chef-d'œuvre proposé par un éditeur magnifique. Je recevrai l'éditeur en question. Visite de bibliothèque, celle de la cinéaste Lisa Azuelos aujourd'hui. Sandrine Babu, notre libraire, nous donnera quelques bons conseils de lecture. Et c'est Sébastien Bordenave qui tirera le rideau avec sa chronique bande dessinée. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. C'est un orfèvre, un artisan méticuleux du côté de Bordeaux. Il décore avec ses livres les librairies et surtout, il nous ramène des trésors glanés aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou ailleurs, des auteurs oubliés ou inconnus en France. Vous avez peut-être rencontré grâce à lui déjà Enig Marcheur, Russell Hoban, Richard Adams et ses Lapins Fous ou Carou de Steve Tessich, gros succès, Carou. Rien que le nom de sa maison d'édition est un mystère qu'il cultive. Monsieur Toussaint Louverture, ça c'est le nom de la maison. Et Monsieur Dominique Borde, ça c'est le nom de l'éditeur. Bonjour Dominique Borde.
Bonjour Nicolas.
Alors là, vous vous êtes surpassé. Les confrères des Inrocuptibles parlent même de l'événement éditorial de l'année. Vous publiez Blackwater de Michael McDowell. 6 tomes au format poche, avec comme toujours des couvertures magnifiques baroques, de petits bijoux, mais aussi des bonheurs de lecture. L'auteur d'abord, qui est Michael McDowell, 1950-1999, Dominique Borde. Il a un profil très particulier, ce Michael McDowell. Et en fait, on le connaît un peu sans le connaître.
En effet, Michael McDowell, même si on ne connaît pas son nom, on connaît ses créatures. Michael McDowell a inventé Beetlejuice, qui a ensuite été adapté au cinéma par Tim Burton. Il a aussi mis la main à la pâte de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est quelqu'un qui a eu vraiment une influence d'homme de l'ombre. Il a aussi scénarisé énormément d'épisodes d'une série qui s'appelle Tales from the Dark Side.
Les cryptes, les contes de la crypte.
Non, c'en est une autre assez proche. Il a aussi participé à la réalisation du film du même nom. Et donc, il a rencontré et côtoyé George Romero. C'est lui qui l'a embauché pour devenir scénariste. Spielberg, donc Tim Burton, etc. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui, dans la deuxième partie de sa carrière de scénariste, a vraiment œuvré pour la pop culture et aussi, disons, un petit côté gothique, un peu particulier, c'est-à-dire l'amour de la mort, comme Tim Burton l'aime.
Oui, on voit bien l'atmosphère déjà, ce qui n'est pas tout à fait la même dans Blackwater d'ailleurs, mais il a une fascination pour la mort. J'ai même vu qu'il avait collectionné des objets en rapport avec la mort et tout ça.
Complètement, il a
particulier, le garçon.
Une collection. Alors, je pense que ça vient de sa fascination aussi, parce que c'était un lettré, hein, c'est quelqu'un qui a fait des études à Harvard et qui se destinait à être professeur de littérature de haut niveau, qui était fasciné et d'un point de vue scientifique, mais également aussi personnel par la mort. Et d'ailleurs, sa thèse portait sur l'attitude des Américains face à la mort entre 1850 et 1890. Et donc, il collectionnait des artefacts mortuaires. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est des faire-part, c'est aussi des mèches de défunts, c'est des memento mori, des photos de fantômes, des publicités pour des croque-morts, toutes sortes de choses. Il y en a 1600 qui sont désormais hébergés dans une université. Voilà, il était vraiment fasciné par ça, et ça s'en ressort. Hein, quand on connaît Beetlejuice et L'étrange Noël de Mr. Jack, il y a quelque chose de cet ordre-là très présent, sans être non plus
humoristique
macabre.
En même temps.
Voilà,
quoi.
Voilà, il y prenait, il n'avait aucune limite dans son humour vis-à-vis de la mort. Hein, c'est pour ça qu'il se permettait de ça. Et en même temps, on le sent aussi dans ses livres. La mort, entre guillemets, est présente, elle est palpable, mais elle ne sert qu'un seul dessin, raconter une bonne histoire.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paperback ?
Un paperback, c'est ce qui a pris un petit peu la suite aux États-Unis des pulps. C'était des livres de poche de piètre fabrication diffusés partout en gros tirage, en un seul, souvent très gros tirage, et qui étaient disponibles dans les stations-service, dans les drugstores, dans les supermarchés, dans les librairies, mais qui hébergeaient généralement ce qu'on appelle aujourd'hui des romans de gare, de la littérature populaire. Voilà, il y a eu des grands auteurs qui sont passés aussi par les paperbacks. Voilà, c'était très efficace. Il y avait des paperbacks qui étaient de la réédition d'auteurs et des paperbacks originals qui étaient vraiment des créations faites dans n'importe quel genre, que ce soit polar, horreur, roman de guerre, Vietnam, détective, polar, hardboiled, tout ce qu'on veut.
Hardboiled, c'est dur à cuire.
Ouais, voilà, c'est les littératures noires à tendance un peu violente. Et voilà, lui, il s'est épanoui dans les paperbacks originals. Ça a été son premier éditeur et en même temps, ça collait parfaitement avec, avec ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire de la littérature qui plaise au plus grand nombre, qui soit consommable rapidement, parce qu'en fait, il n'aimait pas attendre, je pense. Il aimait écrire et que quelques mois plus tard, ça soit sur les étals, dans, entre les mains des lecteurs.
Et d'ailleurs, il a écrit une trentaine de romans en quoi 5-6 ans ?
En une dizaine d'années. Ouais. 35 romans en une dizaine d'années, il faut être sacrément prolifique. Dont Blackwater, hein, qui fait quand même, si on y compte 1200 pages, n'est compté dans cette liste comme un seul roman.
Donc, et Blackwater qui a été, donc, comme vous le faites maintenant, publié en épisode. Donc, et c'est ce qui a inspiré d'ailleurs Stephen King pour La Ligne Verte. Et c'est pas du tout un truc commun.
Alors, c'est pas commun. C'était pas commun dans les années 80, ça n'est pas aujourd'hui.
C'était le 19e en France.
Voilà,
quoi.
En France, c'était le 19e. Il y a quand même toute une histoire de feuilletoniste qu'il connaissait assurément, étant lettré. Et pour lui, en fait, il a fait une sorte d'adéquation entre « je veux raconter l'histoire d'une famille sur plusieurs générations, suivre les enfants des enfants des enfants ». Et le fait que mon éditeur, lui, veut faire des 250 pages et que je dois en sortir plein. Donc, en gros, il a trouvé cette forme à la fois littéraire et éditoriale de sortir un livre tous les mois pendant 6 mois en tenant les lecteurs parfaitement en haleine pour raconter ce qu'il avait à raconter.
Et donc, notamment en 1983, Blackwater, on est à Perdido, un village, une petite ville dans l'Alabama. Il y a 3 familles qui tiennent la ville avec leur scierie, les Cascades, les Turcs et les 2 Bordenaves. Ça commence mal. On est en 1919. La petite ville est inondée. Il faut dire qu'il y a 2 rivières, la rivière Perdido et son affluent, la rivière Blackwater. Et là, horreur. La plupart des maisons sont submergées, en particulier d'ailleurs celles des riches industriels. Et tout le monde s'est réfugié dans la petite église Zion Grace, je ne sais pas trop comment on dit, avec une pasteur, plutôt haute en couleur. Bref, dans la ville, reste quand même Bray Sugar White au tout début, qui travaille pour Oscar Casquet, le fils Casquet. Les 2 patrouillent sur un petit bateau au milieu des maisons et soudain, Oscar voit quelque chose qui brille ou quelque chose qui a bougé derrière une fenêtre. Alors, il s'approche tous les 2. Et puis là, il y a une femme très étrange, rousse, mais d'un rouge presque argileux, presque comme la boue qui est charriée par les rivières. Elle n'a pas mangé ni bu pendant 4 jours et elle a l'air en pleine forme. Personne ne la connaît, elle s'appelle Elinor. Elle dit qu'elle vient là parce qu'elle voulait être enseignante. Puis quand elle est arrivée, il y a eu l'inondation, elle est restée bloquée là. Elle fascine, mais elle intrigue aussi. Par exemple, la mère parce que Oscar, évidemment, tombe immédiatement amoureux parce qu'elle est très belle. Mais la mère d'Oscar, Mary Love, elle n'est pas très, très, très fan. Et puis ça commence à jaser un petit peu aussi, parce que c'est un village. Et donc, évidemment, il faut se raconter des histoires.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Dominique Borde, le patron de la maison d'édition Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui publie un chef-d'œuvre américain qui s'appelle Blackwater en 6 épisodes, donc 6 tomes au format poche. Le premier est sorti la semaine dernière et puis tous les 15 jours, il y en aura un autre et ça jusqu'au mois de juin. Et puis pour avoir la collecte, faudra attendre, demander à son libraire de nous en garder un et tout ça. Il y a quand même 100 000 exemplaires dans la circulation, donc dépêchez-vous quand même, mais normalement ça ira. C'est donc l'histoire, ça commence en 1919, mais ça va s'étaler dans le temps, dans un petit village qui s'appelle Perdido, dans l'Alabama. Il y a une inondation terrible, toutes les maisons sont submergées, tout le monde est réfugié un peu à l'extérieur de la ville. Et puis émerge de cette eau, si on veut, une jeune fille qui s'appelle Elinor, qui est très belle, très rousse, avec des cheveux qui ressemblent même presque à l'argile charriée par les rivières. Et elle intrigue beaucoup dans le village et elle dit qu'elle est enseignante. Mais bon, c'est bizarre, elle a quand même perdu ses diplômes qu'elle avait emmenés dans une valise. Elle les a perdus dans l'inondation. Et voilà, et autour de ça, autour de cet événement, à la fois l'inondation et l'apparition de cette Elinor, on suit une saga familiale, en fait, Dominique Borde.
C'est ça, c'est un parfait résumé, je trouve. Le seul détail que je rajouterais, c'est qu'Elinor n'est peut-être pas ce qu'elle paraît être. Hein. Je, il se trouve qu'elle a un rapport très particulier avec l'élément aquatique, l'eau, et que de temps en temps, lorsque elle a faim, elle va dévorer quelqu'un.
Ah bah vous le dites carrément, d'accord, ok.
Je trouve que c'est
je
pas...
Je savais pas jusqu'où on pouvait le dire, mais effectivement...
C'est un petit détail. C'est un petit détail, elle va arracher un bras, voilà. Mais sinon, elle est très bien, elle est très polie, elle est aimée de tout le monde, et surtout d'Oscar. Et en fait, elle a qu'un but, c'est se faire une place dans la famille, dans l'une des familles les plus riches de Perdido, les Cascais. Mais ce qui ne va pas être du tout du goût de la matriarche Marie-Love Cascais. Il faut savoir qu'à Perdido, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Donc attention.
Oui, parce qu'elle boulotte, mais en secret. Attention, elle, quand même, elle se cache sous la forme d'une très belle femme. Et c'est vrai que parfois, elle apparaît au détour d'un témoignage. On a cru la voir se transformer en une sorte de créature dans l'eau, assez hideuse, comme ça. Mmh. Et c'est le fantastique, mais un fantastique... presque pas suggéré, mais c'est pas un fantastique direct, quoi. C'est pas de l'horreur directe.
C'est pas du tout un roman fantastique, en fait. C'est le fantastique qui arrive là, comme le merveilleux, par petites touches, c'est un peu épique, et puis on l'oublie. Il ne fait que servir, en fait, un but plus vaste de nous raconter les relations entre les personnages, de développer les rebondissements, les luttes intestines qu'ils vont se mener, la lutte essentielle entre Marie-Love, la belle-mère, enfin la future belle-mère, et Elinor Dahmer. Et c'est ça qui est le lien. De toute façon, ce livre est bâti sur la relation entre les parents et les enfants.
Et c'est des histoires de femmes surtout, en fait.
C'est essentiellement des histoires de femmes, des histoires de survie, des histoires de résilience, des histoires entre femmes. Et c'est très, très efficace parce qu'il y a des rebondissements permanents. Même si en apparence, on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose dans cette petite ville, il ne va pas y avoir d'autres crues, il ne va pas y avoir la guerre, les événements de la vie vont être très lointains, mais ils vont être présents. Néanmoins, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un grain à moudre, quelqu'un à embêter ou quelqu'un à sauver. Et ça, c'est diablement efficace.
Et qu'est-ce que ça dit sur le sud des États-Unis ? Est-ce que d'ailleurs, c'est le propos du livre ? Parce qu'il y a les Noirs, les Blancs, évidemment, dans une entente, mais avec aussi une forme de condescendance, parfois, de la part des Blancs. On est en Alabama, hein, donc
oui,
c'est
Oui, c'est un roman qui essaye d'être parfaitement juste du point de vue historique. C'est-à-dire que les domestiques sont noirs, ils sont à la limite de l'esclavage. L'auteur ne va pas le nier, il est de l'Alabama, il connaît parfaitement l'histoire, mais en même temps, on n'est pas du tout à Perdido dans l'Alabama. On est ailleurs, finalement. On est dans une sorte de territoire un peu imaginaire, comme Stephen King l'a fait avec Castle Rock, ou J.K. Rowling avec Poudlard. On est dans un autre monde, en fait. Ouais. On ne le sait pas, mais on est ailleurs. Et c'est grâce à ça, et c'est ça qui dégage une ambiance assez incroyable dans ce livre, qui fait le charme de l'ensemble du livre, qui est qu'à chaque fois qu'on ouvre ses pages, on se retrouve dans cet ailleurs, dans ce Perdido qui nous fait passer le temps à une vitesse incroyable.
D'ailleurs, il y a un avertissement de Michael McDowell qui dit que Perdido existe, mais ce n'est pas vraiment cette ville-là, que certains personnages existent aussi. Mais bon, évidemment, on l'a dit, il y a une forme de fantastique et tout ça. Mais il y a aussi, c'est un livre, un roman, je veux dire, sur les éléments. Il y a un truc très nature aussi. C'est-à-dire que même cette créature étrange et fascinante, Elinor, à un moment, elle plante des glands de chêne, des chênes d'eau. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, ça ressemble à des chênes. Mm-hmm. Et on a l'impression d'être dans Giono, dans cette histoire de forêt, du type qui passe sa vie à planter des arbres. Mm-hmm. Et, puis, elle provient de l'eau. Et donc, elle provient de la nature, mais en même temps, elle a un côté maléfique.
Elle n'a pas un côté maléfique, elle a un côté tout court. Elle est ce qu'elle est, et ça restera le grand trou noir. Enfin, c'est un grand trou noir dans le livre, c'est-à-dire que tous les personnages, on les connaîtra par cœur, sauf un. Elle, qui est le centre d'attraction de tous les autres. Mais elle a un rapport, en effet, très très fort à la nature. Et l'histoire va se développer dans ce sens-là. Elle a une connaissance profonde de ce qu'est le monde, de ce qu'est l'univers, etc. Et elle incarne un peu, si on veut, la nature, les forces de la nature contre les forces de l'homme. Néanmoins, elle est cette exception, ce point, ce tiré entre les deux mondes, parce qu'elle veut faire sa vie finalement comme une sirène, comme la petite sirène. Elle veut avoir des jambes et elle veut vivre parmi les hommes. Elle veut vivre dans une maison. Peut-être qu'elle ne veut plus vivre dans la nature. Et c'est très fort. Et ce rapport, il est présent dans tout le livre, à travers la présence des forêts, à travers en effet cette nature vengeresse et cette sauvagerie que représentent les fleuves. C'est ces rivières qui sont tout le temps décrites et qui sont tout le temps au-dessus de la tête de chacun des habitants et qui pèsent comme une menace permanente aussi d'une future crue, d'une future noyade ou d'une peur incontrôlable de ce qui se cache au fond dans la boue.
Donc vous ne voulez pas faire de jugement de valeur parce que d'une certaine manière, c'est la nature et c'est comme ça. On ne va pas en vouloir au lion de manger des gazelles, n'est-ce pas ? Mais il y a quand même un truc de la critique peut-être sociale, mais peut-être je me trompe, de Michael McDowell dans sa manière de décrire les communautés comme ça, un peu sur, qui tournent sur elles-mêmes, les voisinages, les querelles de famille, ça les enfants même, aussi qui sont repassés à l'un à l'autre.
Ça va même au-delà de ça, parce que lui, sa critique va vers la famille. Il avait une haine, une détestation profonde de la famille.
Ah,
ça vient de son enfance, de ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un qui a mis du temps à sortir du placard, comme il le dit lui-même, et qui regrette que ça ne soit pas plus simple. Et il trouve que les familles sont comme non seulement des tuteurs plantés dans chaque être, mais comme des poutres plantées en nous. Et que ces poutres font du mal. Et que les relations familiales sont des relations verticales, d'asservissement, mais aussi de manipulation. Alors que les relations entre amis sont des relations horizontale et choisie. Et donc, c'est vraiment une famille, je vous haine, qui est décrite dans Blackwater. Mais c'est aussi beaucoup plus profond, parce qu'en son cœur se cache la relation mère-enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui arrive dans le livre, au milieu du livre, et on se découvre que c'est le vrai sujet.
La non-relation, d'ailleurs.
Dans un premier temps, la non-relation, mais en fait, il va exposer toutes les possibilités, en fait. Il fait un inventaire, il va y avoir tous les cas possibles. La relation père-fille, la relation mère-fille, la mère présente, enfant absent, enfant présent, mère absente, enfin tout était là. Et c'est vraiment très riche de ce côté-là, très profond. Ça ajoute une couche au rebondissement. C'est un roman qui finalement est beaucoup plus profond si on veut prêter l'oreille au détail.
Il y a de la profondeur et en même temps, on peut le prendre aussi comme un truc de tout à fait divertissant. Il y a un côté dynastie, éventuellement.
C'est clair.
Il y a plein de niveaux de lecture. C'est vraiment une œuvre à part. La question, c'est comment vous avez trouvé cette œuvre ? Mais ça, vous allez nous le dire sans doute, peut-être, dans un instant.
La Voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est livre, le retour de la vengeance. Toujours avec Monsieur Toussaint Louverture, alias Dominique Borde, patron de la maison d'édition. Monsieur Toussaint Louverture, je ne vous prendrai même pas la peine de lui redemander pourquoi la maison s'appelle comme ça, puisque après il répond avec une langue de bois, il cultive le mystère, il ne veut pas dire, il dit en même temps, donc je ne lui poserai pas la question. Mais en revanche, il vient de publier Blackwater, un roman feuilleton en 6 épisodes qui va s'étaler jusqu'au mois de juin. Ça sortira tous les 15 jours chez son libraire, et au passage, c'est quand même une bonne idée pour nouer une relation particulière avec son libraire, quoi. C'est-à-dire qu'on va attendre le bouquin parce que c'est addictif. C'est vraiment du roman feuilleton, c'est une série Netflix pour aller vite, mais en plus c'est de la littérature, donc c'est pour moi un petit peu plus profond encore et un peu plus attachant encore. L'auteur Michael McDowell est mort en 99, il avait publié ses livres en 1983. Comment vous tombez dessus, Dominique Borde ? Parce qu'aux États-Unis, ça a eu un grand succès, mais en France, on n'a jamais entendu parler de Blackwater.
Non, aux États-Unis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a même inspiré 10 ans plus tard l'ami de McDowell, parce qu'ils étaient amis, Stephen King. Stephen King était l'un des premiers admirateurs de Michael McDowell, a publié un roman qui s'appellera en France La Ligne Verte sous forme d'épisode. Et il se trouve qu'en France, La Ligne Verte a eu un très grand succès aussi. Et il se trouve que je l'ai lu et il se trouve que dans les premières pages du prologue de La Ligne Verte est cité un livre qui s'appelle Blackwater.
Ah, c'est comme ça, d'accord.
La première fois que j'en ai entendu parler, c'est comme ça. Il se trouve que récemment, il y a 5 ans, j'ai recroisé son chemin chez différents éditeurs. Je me suis dit, tiens, voilà, si différents éditeurs sont capables de s'emparer d'un livre cité par Stephen King et de le republier alors qu'il est sorti il y a déjà 40 ans, c'est qu'il y a quelque chose. Et voilà, ça fait partie des petites choses qui réveillent mon antenne de détection et j'ai foncé et voilà Blackwater.
Mais comment ça marche concrètement ? Vous êtes dans votre bureau à côté de Bordeaux, vous dites tiens, ben, je vais éditer Blackwater en France. Donc vous prenez votre téléphone ou votre mail, vous appelez qui, quoi, comment ça marche ?
Non, c'est un travail d'enquête en fait, surtout dans un cas comme ça où l'auteur n'est pas connu, il est resté en dessous des radars, même si le livre a eu beaucoup de succès dans les années 80 et qu'il est régulièrement republié, que Michael McDowell est scénariste de Beetlejuice, il est quand même resté dans une sorte de niche et sous les radars, c'est un homme de l'ombre. Donc en gros, il faut faire une enquête, qui l'a publié en dernier, est-ce qu'il veut bien nous donner le nom d'un agent, est-ce que cet agent a un avocat, etc. On remonte le fil, qui possède les droits, et là on découvre la personne qui possède les droits, et on demande si on peut l'acheter poliment, et avec de l'argent, et on en tire les droits, si on a de la chance, si on a bien négocié.
Et alors, il y a un deuxième problème, c'est qu'il a été réédité aux États-Unis en un seul volume, parce que c'est plus simple, c'est plus trop la mode, les romans feuilletons, mais vous, vous avez décidé de le faire en 6 épisodes, donc qui sortent tous les 15 jours chez les libraires. Mais bon, dit comme ça, on peut se dire c'est fastoche, mais en fait, c'est pas forcément évident que des libraires acceptent de prendre ce livre et de le suivre et de le porter pendant plusieurs mois.
Non, carrément, mais l'idée principale, c'était de respecter l'intuition qu'avait Michael McDowell d'avoir son histoire portée en 6 fois, avec des temps d'attente, des temps où on désire avoir la suite entre les deux.
Et donc, il a fallu... que c'est 8 euros, pardon.
Oui, c'est 8 euros.
On ne dit pas qu'il faut...
Non, 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 c'est 8 euros le volume. Mais oui, après, l'idée à nous était de faire des objets qui soient capables d'attirer les lecteurs et qui ne les laissent pas de côté parce que c'est trop cher, etc. Et donc, après, il a fallu convaincre les libraires. Et donc, ça, je l'ai fait avec mon diffuseur-distributeur Harmonia. Et on a réussi à les convaincre. En fait, c'était très simple de les convaincre. On leur a fait lire le livre. Ils ont lu les 2 premiers volumes, puis les autres, et ils ont adoré. Ils se sont dit, c'est génial, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est marrant. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas amusé en librairie. Emparons-nous de ça et mettons-le en avant. Et voilà, et c'est ce qui se passe.
Alors, vous êtes aussi connu pour vos très beaux livres-objets, c'est-à-dire la beauté des livres que vous éditez. Vous y mettez beaucoup de soins. Vous même mettez à chaque fois dans les livres quelques détails sur la fabrication. Et par exemple, là, on apprend que c'est donc un papier Popset Galette de 240G. Les couvertures ont été passées sous les encres d'une presse offset avant d'être dorées à chaud à 2 reprises, d'un coloris noir pigmenté suivi d'une dorure champagne, puis enfin embossées, tout ceci pour que leur forme et leur ombre captent la lumière et marquent les esprits. L'impression des blocs intérieurs et la reliure ont été assurées par l'imprimerie CPI Firmin Didiot à Ménil sur Lettré dans l'Eure. La police a utilisé du savon créé par Yann Chihold, etc., etc. Vous aimez ça aussi, la création des couvertures. Et là, je crois même que vous avez appelé un artiste un peu particulier.
Oui, pour ces couvertures, en fait, le défi, c'est-à-dire intéresser les lecteurs à 6 livres qui forment une fresque, les faire revenir 5 fois en librairie après le premier achat, il fallait qu'il y ait les livres et une forme très, très spécifique. Et je me suis inspiré des jeux de poker. Et j'ai cherché un artiste qui dessinait, d'après moi, le mieux les jeux de poker. Et je lui ai demandé de dessiner chacune des couvertures avec un aspect un peu tatouage, d'autres un aspect un peu classique, un aspect un peu Hetzel. Et voilà. Et on est sorti de cette collaboration totalement folle sur 9 mois, ces 6 livres-là.
Avec un côté un peu narratif dans chaque couverture.
Des détails.
Il y a des détails de l'épisode. Dans la première, ouais. Par exemple, on voit donc 2 types sur une barque et au fond, une dame comme ça, avec des maisons autour, mais dans un style voilà, très...
Jules Vernien.
Jules Vernien, voilà. Et vous parliez d'Hetzel, c'est ces vieilles éditions de Jules Verne qu'on retrouve dans les maisons de campagne, parfois des grands formats rouges comme ça, avec des détails sur l'histoire. Mais comment... ça coûte très cher de faire ça. Et à chacun de vos livres, vous publiez une couverture différente avec des astuces, des surimpressions. Parfois, je me rappelle, c'était Enig Marcheur, il y avait plusieurs couches de couverture qui créaient un dessin, des calques, enfin, je ne sais plus ce que c'était.
C'était ça.
Et comme, c'est une fortune, ça.
Oui, c'est très cher. Je sais pas, il n'y a pas... Mais bon, en même temps, les livres les méritent. Hein. Si on n'est pas prêt à inventer quelque chose pour publier un livre, que ce soit... commercialement ou que ce soit intellectuellement ou esthétiquement donc ou sous la forme du livre, je trouve ça dommage. En fait, il faut que pour moi, qui suis un tout petit éditeur, il faut que le livre puisse raconter quelque chose avant que le lecteur le prenne dans ses mains et qu'il véhicule ce quelque chose, qu'il raconte une petite histoire ou une petite musique ou qu'il envoie des signaux très particuliers, une ambiance. Ou même si le lecteur l'achète, il va le poser sur sa bibliothèque, il faut qu'un mois après, il ait quand même envie d'y revenir, qu'il se dise « Ah oui, j'avais pas vu ça, c'est intriguant, je veux aller plus loin ». Et les livres, pour moi, sont un peu magiques et j'ai envie de transférer, plutôt de faire passer cette magie, montrer que les livres, c'est pas un produit de consommation, mais c'est aussi autre chose. C'est quelque chose dans lequel quelque chose qui peut être investi d'une valeur artisanale, esthétique, et voire peut-être presque artistique et pas que industrielle. Et je trouve que c'est l'essence de mon travail, de réveiller l'essence de ce qu'est un livre, à travers le toucher, à travers les reliefs, à travers les dorures, à travers les encres bizarres, à travers les dispositifs particuliers, et de faire se poser la question et de régénérer un petit peu, de réenchanter l'amour que les gens ont pour le livre. Voilà.
Et doré à chaud, ça veut dire quoi, par exemple ?
C'est en fait, on utilise non pas une encre liquide, on utilise ce qu'on appelle une encre solide, qui est généralement de la dorure, mais les dorures peuvent être aussi noires, rouges, vertes, dorées, champagne, etc., et qui est déposée sur le papier sous l'effet de la pression et de la chaleur. Donc, c'est des grosses machines qui pressent très fort une encre qui est en rouleau et qui se déroule comme du sopalin et qui va presser très fort. Le résultat est très, très beau. Mais c'est une technique qui est très lente, qui n'est pas toujours utilisée, sauf dans certains dispositifs. Voilà. Et nous, on a poussé le dispositif dans ces retranchements-là, parce qu'il y a tellement de détails qu'on est à la limite de la faisabilité.
Et alors, ce n'est pas forcément contradictoire, mais c'est étonnant, c'est que vous publiez ces livres-là avec une technique si particulière vous a fallu deux imprimeurs, un pour le texte, un pour les couvertures, parce que c'était trop compliqué de faire les deux. Mais ce sont des paperbacks, donc vous nous avez expliqué tout à l'heure, donc, qui étaient à l'époque des livres de très mauvaise qualité d'un point de vue de l'objet, quoi. C'était du papier bas de gamme, etc.
Ben voilà, je fais une relecture en fait. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui publier du paperback ? Qu'est-ce que ça veut dire plutôt aujourd'hui publier 6 livres en 3 mois ? Voilà, qu'est-ce que ça implique ? Il faut que les livres soient petits, il faut qu'ils soient précieux, il faut qu'ils soient transportables, qu'on puisse les lire à la plage, dans le train, n'importe où. Il faut qu'ils soient accessibles, mais il faut qu'ils soient fascinants, fantasmagoriques, un peu baroques, comme vous avez dit. Voilà, et c'est cet ensemble de choses qui font les livres tels qu'ils sont. Et il faut en imprimer énormément pour avoir un coût final.
Pour les
bas,
vendre pas
euros.
Très cher aussi.
Voilà,
donc,
pas très cher. Et c'est ça cet équilibre.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour, toujours avec l'éditeur Dominique Borde qui publie Blackwater, un roman feuilleton en 6 tomes, c'est chez Monsieur Toussaint Louverture. Et il est l'heure de visiter une bibliothèque. La réalisatrice Lisa Azuelos propose sur Prime Video le film I Love America. C'était l'occasion d'aller voir de quel livre elle se chauffe.
Bonjour Lisa Azuelos.
Bonjour.
Merci de nous accueillir.
Ça fait plaisir.
C'est que l'autre jour, je faisais une chronique chez Philippe Vandel. Vous étiez l'invité pour votre nouveau film. Et avant de rentrer, il y a l'assistante de l'émission de Philippe qui m'a dit, tu sais qu'elle lit énormément, elle adore les livres. Et après,
c'est
vous
vrai.
M'avez dit qu'effectivement, vous
c'est
essayez
vrai.
De ne pas trop emmener de livres maintenant chez vous parce que ça déborde.
Bah, c'est la chose que je préfère acheter, en fait. Donc, je fais un peu attention. Mais c'est vrai que depuis que je peux commander aussi des livres et qu'ils arrivent chez moi, ça ne s'est pas calmé, quoi. C'est horrible.
Et c'est depuis longtemps, ça ?
Depuis toujours, en fait. C'est vraiment, quand j'étais petite, c'était mes meilleurs amis. Je crois que j'ai lu tous les classiques. J'avais même pas... À 15 ans, j'avais lu tous les grands livres de la littérature française.
C'est utile en tant que cinéaste ?
Oui, je pense que c'est important de... En fait, je me rappelle de rien, mais je sais que ça a formé mon cerveau. Et c'est important d'avoir un cerveau bien formé quand on écrit des films.
Pour le cadre, pour la structure, pour les points de vue, pour...
Oui, c'est un métier où on est très seul au début, puisqu'au début, moi, personne ne vient me chercher et je suis obligée d'être toute seule pour écrire. Et si je n'ai pas une habitude de travail, de lecture comme j'ai pu avoir, que si je n'ai pas une habitude de retravailler des textes, etc., bah, peut-être que j'abandonnerai. C'est vrai que pour la plupart des jeunes aujourd'hui qui viennent beaucoup de l'image, c'est compliqué d'écrire un texte et ça passe encore par là quand on veut faire un film.
On est dans votre salon, salle de cinéma, puisqu'il y a un vidéoprojecteur. Et en fait, l'écran que vous tirez là du plafond est juste au-dessus de la bibliothèque. Je précise qu'on va passer du temps accroupi, puisque les deux bibliothèques que je vois sont basses.
Voilà.
C'est voulu, c'est volontaire ?
Oui, c'est parce que comme ça laisse les murs libres pour pouvoir mettre des tableaux, des choses. Et puis...
Ça évite de mettre des livres à 3 mètres du dos.
À 3 mètres, qu'on ne va pas les chercher, au moins là, ils sont... Et puis c'était bien pour les enfants aussi, parce que quand ils étaient petits, ils jouaient avec. Ça permet d'avoir des livres à portée des enfants.
Mais ça fait qu'on ne peut pas en mettre hors de portée aussi.
Ça fait, oui, mais je n'ai rien vraiment, à part le bouquin de Madonna, qui est peut-être mon bouquin préféré, mais ils ne savent pas vraiment où il est. Il n'y a rien de vraiment grave dans la bibliothèque.
D'ailleurs, il y a des cadres de photos. C'est qui ? C'est Helmut Newton ?
Il y a Basquiat, Cassavetes, il y a Kate Moss et John Galliano, Romy Schneider, Mick Jagger, Marilyn Monroe et ma mère. Voilà.
D'accord. Moi, je dis ça parce qu'il y a une dame toute nue, c'est pour ça.
Où est-ce qu'il y a une dame toute nue ? Oui, c'est Romy Schneider.
D'accord.
On voit que c'est ça.
C'est quoi cette bibliothèque-là ? C'est des classiques. Je vois que c'est des vieux poches. De loin, là, je vois Balzac, Stendhal.
Balzac, Stendhal, c'est vraiment les deux mes deux grands préférés. En fait, ça, c'est les livres que j'ai depuis que j'ai 10 ans.
D'accord, j'adore.
Donc, c'est ceux que j'ai traînés dans tous les déménagements. Alors, j'en ai balancé beaucoup parce que malheureusement, je ne peux pas tout garder, il n'y a pas la place. Mais ça, c'est ceux que je n'ai pas réussi à jeter. Donc, c'est vraiment c'est mes petits doudous livres, en fait.
Et vous vous souvenez quel est le premier d'entre eux ? Celui que vous avez depuis le plus longtemps ? Ou les deux, trois
Je pense que c'est toute la collection Stendhal, La Chartreuse de Parme, Le Rouge et le Noir, Balzac, Eugénie Grandet. Il y a aussi...
Vous les relisez ?
Je relis jamais, mais en fait, je m'étais toujours dit, quand j'aurai plus rien à faire, quand je serai à la retraite, je relirai mes livres, mes grands classiques. Donc voilà, effectivement, il y a deux étages, donc il y en a qui... Ah, et Flaubert, voilà, je savais qu'il m'en manquait.
L'éducation sentimentale, vieille version poche.
Ouais. Bah, en fait, Flaubert, Balzac et Stendhal, c'est vraiment là-dessus que je me suis formée.
Un peu jaunie.
Ouais, complètement jaunie même.
Mais vous êtes formée à quoi
En fait, formée à...
au sentiment, à la littérature.
Au sentiment, oui. Alors, bon, c'est sûr que Madame Bovary, ça donne...
C'est pas les plus joyeux.
C'est pas les plus joyeux. Mais c'est ce qui m'a donné le plus envie de lire et de m'échapper quand j'étais petite. C'était vraiment extraordinaire, quoi, ces livres-là.
Oh, bah, en matière
alors,
d'évasion et...
Ah bah, Rebecca, hein, Daphné du Maurier, ça...
Ça fait peur.
Ça, c'était génial. Hein.
C'est Hitchcockien.
C'est Hitchcockien. Bon, j'avais pas vu le film à l'époque, hein, mais j'avais adoré ce livre, Rebecca, Daphné du Maurier. Alors, je sais, il est pas là parce que je l'ai donné à une amie, mais l'autre livre que je traînais depuis des années et des années, c'était Ambre. Mais je me rappelle pas de l'auteur. C'est une femme qui avait écrit ce livre et ça avait été vraiment une grande, grande révélation, ce livre.
Mais c'est beau ça aussi de se rappeler des livres sans se les rappeler vraiment en fait. Ils sont plus là, mais ils sont en vous.
Ils sont en moi. Ah oui, c'était vraiment...
Puis alors, vous avez le Rebecca, là, c'est le collector, hein, parce que c'est la version livre de poche à l'ancienne.
Ouais.
Quand il y avait ces couvertures là illustrées,
je vous dis,
très belles.
C'est les livres que je traîne avec moi depuis... Depuis mon enfance, alors il y a aussi Chien perdu sans collier,
ah oui,
je crois. Alors là,
oui, je l'ai vu.
C'est ce bron là.
Voilà.
Ça aussi,
c'est ce qu'on lit à l'école.
Ce qu'on lit à l'école, et puis alors vraiment, le choc de ma vie, Tristan et Iseult.
Ah bon, pourquoi ?
Parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Comme je trouve que dans ce roman, il y avait tous les romans du monde, quoi. C'était incroyable, d'une modernité incroyable, alors que c'était au Moyen Âge. Et
j'allais dire, c'est pas facile à lire, mais en fait, c'est la version modernisé, renouvelé en français,
ouais,
par René Louis.
Absolument. Ouais. Alors, il est vieux aussi, hein, celui-là. Ça, c'est les bouquins que j'ai ramenés de mon enfance.
Mais Tristan et Iseult, ça fait partie de ces mythes,
oui,
littéraires qu'on n'arrête pas de recomposer, en fait.
Ouais.
Comme l'Odyssée, ou enfin tous ces textes qui sont en fait tellement forts que toutes les histoires qu'on crée ensuite, c'est une manière de les re-raconter.
Absolument, ouais. Ça, c'était vraiment un grand, grand roman.
Vous êtes déjà plus ou moins inspiré d'un chef-d'œuvre littéraire pour un de vos films ? Sans le savoir, quoi, mais en vous disant
sûrement,
après, tiens, mais en fait, ça, c'est...
Sûrement, mais non, pas vraiment, en fait. Je m'inspire plus de films pour écrire des films que de livres.
Ah oui ! Kessler.
Le zéro et l'infini, ça aussi, ça m'avait marqué.
Il est où ?
Il est là.
Pourquoi ?
Bah, en fait, je m'étais rendu compte que le zéro et l'infini, en fait, c'est pareil. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, quoi.
La Divine Comédie de Dante.
Alors ça, je ne l'ai jamais lu. Celui-là, je me le garde. Parce
que
je sais que
c'est paradis,
génial.
Il faut commencer par l'enfer.
Ah oui, non, j'aime pas l'enfer.
Bah oui, mais si. Mais justement, après, c'est purgatoire et ensuite le paradis. C'est plus chouette parce que dans l'autre sens, on descend.
Ouais. Mais ça, je me le garde pour mes plus vieux jours, on va dire. J'espère que j'aurai assez de yeux pour lire, parce que la vue baisse quand même.
Et ouais, mais c'est ce qu'on me dit parfois. Je ne sais plus qui m'avait dit qu'il attendait d'avoir 80 ans pour lire Proust. Le problème, c'est que vous savez bien que ces livres-là, ils peuvent être vraiment très utiles dans la vie, quoi.
Ouais.
Et se rendre compte à 80 ans qu'on aurait dû le lire quand on en avait 50, ça peut être dommage.
Voilà, ben c'est ce qui arrive à Dante. Mais j'ai envie de dire, je garde le meilleur pour la fin peut-être.
Qui vous bloque puisque vous lisez tout le temps ?
Non, mais je ne lis plus là, plus tellement.
D'accord.
Je lis moins. Disons que je lis, puis je lis utile, je lis des livres de développement personnel, je lis pour apprendre, je lis pour apprendre des choses surtout maintenant. C'est plus pour me divertir.
Vous lisez moins de romans ?
Je lis beaucoup, beaucoup moins de romans, ouais.
Ça vous manque pas ?
Non. Bah non.
Tiens, je vois Woody Allen.
Ouais.
Mais c'est un de ses livres.
Ouais.
Ça, c'est intéressant parce que alors, c'est lui, c'est l'archétype du cinéaste écrivain.
Ouais, bah, c'est mon modèle. Hein. De toute façon, Woody Allen, c'est vraiment c'est une carrière comme ça que je voudrais faire. Et j'ai lu même son dernier, pour le coup, son dernier livre, qui était un autoportrait, où il se racontait de A à Z. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'accompagne tout le temps. Bon, malheureusement, là, il s'est un peu fait enwoker. Après, voilà, je pense que ça va être plus dur d'avoir accès à ses livres et à ses films maintenant, mais bon.
Vous l'avez déjà rencontré ?
Je l'ai rencontré, mais je lui ai juste serré la main. Il ne pouvait pas imaginer à quel point il m'a nourrie quand je l'ai rencontré.
Vous n'osez pas dire comme ça à des
si,
gens que vous admirez,
dit,
vous les
je l'ai dit, je lui ai dit, mais bon, il s'en fout, tout le monde lui dit. Donc,
on a l'air idiot, quoi.
Non, ce n'est pas ça. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je ne peux pas vous garantir que lui se rappelle du jour où moi, je lui ai serré la main. Quoi. C'est juste ça.
Je suis sûr qu'il y pense en flânant à New York. Lisa Gelos qui m'avait dit ça, ça m'avait touché.
Ça m'étonnerait.
Je prends un extrait là, comme ça, juste en ouvrant une page au hasard. Pris le café avec Melnik aujourd'hui, il m'a parlé de son idée d'obliger tous les officiels du gouvernement à se déguiser en poule faisane. Il y est longuement réfléchi.
Écoutez, je trouve qu'ils n'ont plus tellement besoin de se déguiser pour avoir l'air de poule faisane hein, de nos jours. Donc voilà, ils mettent des grands hoodies de l'armée sur eux. C'est déjà pas mal comme déguisement.
Alors c'est drôle parce que je vois beaucoup de vos livres. Mais ils ne sont pas tous regroupés.
Non.
Ils sont un peu partout, disséminés.
Oui. Bah, de toute façon, je suis nulle en rangement. Hein, donc
il y a le bras blanc. Ah, ce n'est pas volontaire.
Ah non, non, ce n'est pas du tout volontaire. Il y a celui-là, c'est mon premier. Manuel des...
À l'usage des filles qui auraient dû dire non.
À l'usage des filles qui auraient dû dire non. Ouais, c'était une fois que... Juste après mon divorce.
Et comment vous vous êtes lancée ?
Bah, en fait, j'avais besoin d'écrire... sur cette période-là, et puis du coup, voilà, je me suis lancée, et puis j'ai eu la chance de trouver un éditeur. Et
vous vous souvenez du jour où vous l'avez eu pour la première fois dans les mains ?
Ah ouais, c'était une sensation extraordinaire. Mais c'est vrai que ce qui est terrible avec les films, c'est qu'on n'a pas d'objet dans les mains, puis de moins en moins avec tout qui devient virtuel. Mais avec les livres, on a son livre dans les mains, et on a l'impression qu'on a fait quelque chose. Il y a celui-là aussi, là, sur la gynophobie, qui était un mot que j'ai essayé de... Ça, c'était un collectif hein, où il y avait quand même pas mal de... Avec Delphine Orvillard, ça s'appelle Ensemble contre la gynophobie.
C'est quoi la gynophobie ?
Bah, c'est un mot que j'avais créé, un mot parapluie, en fait, pour... C'était avant MeToo, pour dire il y a une peur, un mépris des femmes. Gyno, c'est femme, et phobie, bah, on sait, c'est un peu comme homophobie, mais gynophobie. Et puis finalement, le mouvement MeToo est arrivé, et puis ça a tout réglé, et puis voilà. Il n'y a pas un petit Jean-Yves Leloup qui traîne là, parce que lui, c'est vraiment...
Jean-Yves Leloup ?
Ouais, lui, c'est vraiment l'homme qui m'a tout appris. Donc, je ne sais pas s'il y aurait un livre de Jean-Yves quelque part. Non.
C'est des doubles rangées, alors c'est pas facile.
C'est des doubles rangées, il doit être derrière. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a là, en fait ? C'est
ah
la
bah
bibliothèque
là, vous avez
de quoi ?
Le livre, si quelqu'un doit lire un seul livre dans sa vie, c'est celui-là. Voilà.
La voix du sentir.
Oui, Sanza, La voix du sentir, ça c'est vraiment le livre le plus...
Qu'est-ce que c'est ?
Le plus important. Bah, c'est vraiment un livre qui réapprend à sentir ses émotions et à vivre en étant complètement relié à ses émotions au lieu d'essayer de les camoufler.
Et pourquoi La voix du sentir ?
Bah, parce que c'est une voie comme une autre, c'est un chemin. Et il faut malheureusement, comme on a appris à dessentir, l'éducation sert à nous dessentir, à nous faire dessentir en fait. On a envie d'aller faire pipi, on vous dit non, il faut attendre que la récré sonne. On a envie de bouger, on vous dit non, il faut rester assis. Enfin bon, tout ce qu'on sent, on ne nous laisse pas le sentir, c'est ça l'éducation. Donc lui, bah, il nous rééduque à ressentir qui on est vraiment. Donc c'est très intéressant.
Faut que vous m'aidiez parce que là, j'en connais aucun des livres.
Bah ouais, c'est que les bouquins ésotériques. Alors là, il y a mon petit Jean-Yves Leloup. Voilà, c'est sur le cantique des cantiques. C'est un peu religieux, mais voilà, c'est la sagesse de l'amour. Ça, c'est le meilleur auteur que j'ai lu dans ma vie. Et c'est... J'ai Woody Allen et Jean-Yves Leloup, vous voyez. Jean-Yves Leloup, c'est vraiment...
Et c'est qui alors ? Il fait quoi ?
C'est un... Voilà, écrivain, philosophe et théologien. Jean-Yves Leloup est l'auteur d'ouvrages de référence. C'est un incroyable philosophe et écrivain, et c'est quelqu'un qui m'a un peu tout appris.
Mais vous le connaissez ou...
Oui, parce qu'après, j'ai fait des stages avec lui, et c'est C'est quelqu'un
mais par
qui
exemple, c'est quoi son enseignement?
Ben, c'est l'amour. L'amour du Christ, le pardon.
Religieux.
C'est religieux, mais c'est pas religieux. C'est-à-dire que lui, il est suffisamment...
spirituel, quoi.
Ouais, c'est spirituel, vraiment. C'est, pour moi, c'est le meilleur mec. Chez les spirits, c'est le meilleur.
Voilà. Chez les
spirituels.
Ah.
C'est le meilleur.
Je pensais que vous étiez spirit, carrément, que vous faisiez tourner les tables et tout.
Non, ben, on peut aussi, mais bon...
Vous avez déjà essayé?
Oui, bien sûr. Moi, dès que c'est un peu spécial, j'essaye. Alors là, il y a un livre que j'avais lu il n'y a pas longtemps. Tu m'appelais Maria Schneider, hein, sur l'histoire de Maria Schneider, où on apprend comment, en fait, Marlon Brando s'est mis d'accord avec Bertolucci pour la violer.
Dans le tango à Paris.
Pendant le tournage. Et après, on revoit une vidéo de Bertolucci. On lui demande, mais si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Et il dit, oui, absolument, je le referais. Donc voilà, moi je porte plus du tout Marlon Brando dans mon cœur, par exemple. Qu'est-ce qu'on a là?
Le retour de Lilith. Mais Lilith, c'est c'est Madame le Diable, non?
Non, bah, Lilith, en fait, c'est la dame qui voulait faire l'amour en se mettant sur Adam. Et Adam, il a dit non, c'est au mec de se mettre dessus. Et du coup, elle s'est fait virer du paradis. Donc on dit que c'est le diable, mais pas du tout. En fait, Lilith, c'est la version spirituelle et libérée des femmes.
Ah, mais il y a My Absolute Darling que j'ai vu juste à côté, là, vous l'avez en double.
Alors celui-là, il faut absolument que je le lise. Je l'ai en anglais et en français, mais moi j'ai du mal à lire en anglais. Et c'est le livre que je vais me faire cet été, je pense.
Parce que vous... Ouf, il a morflé, là.
Il a un peu morflé, oui, il a pris
l'eau. C'est quoi, c'est la pluie?
Il a pris la pluie.
Mon Dieu, heureusement que vous l'avez en double.
Ouais, je l'ai en double.
Énorme succès, et pourquoi vous l'avez acheté? Qu'est-ce qui vous a donné envie
de le
prendre?
C'est une femme, en fait, qui m'a dit, il faut absolument que tu lises, c'est ce que j'ai lu de plus beau. Et moi, dès qu'on me conseille un livre, je l'achète, en fait. Je ne suis pas très regardante.
Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges.
Alors lui, c'est mon idole français récent, on va dire, après Balzac et compagnie. Bah, je lis tous ses livres, j'achète tous ses livres.
Qu'est-ce qui vous plaît chez lui?
À la fois, il a une écriture poétique et magnifique, et à la fois, c'est quelqu'un qui fait des vrais voyages et qui nous fait aussi voyager géographiquement. Et voilà, j'avais passé une soirée avec lui où on avait beaucoup, beaucoup discuté, et il fait partie de mes idoles français, lui.
Puisque vous parlez de poésie, il y a Mallarmé, là.
Alors, Mallarmé, il est un peu dur à lire, mais j'adore la poésie.
Mais vous en lisez un peu comme ça, de la poésie,
de temps
en temps?
J'ouvre un livre de poésie et je tombe sur un poème. Le problème, c'est qu'ils sont très durs, ceux de Mallarmé.
Il faut prendre son temps, quoi.
Voilà. Il n'y en a pas forcément toujours.
Vous n'avez pas un préféré, par hasard?
Non, parce que
vous connaissez pas des poèmes par cœur, de Mallarmé ou d'autres?
Non, je connais toujours le début des poèmes, un peu comme le début des chansons, mais j'ai vraiment une très mauvaise mémoire.
Moi aussi.
Mais c'est toujours mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre encore. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Ou alors, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Ou comme un vol de Gerfaut. Enfin bon.
Demain dès l'aube, qui est en fait un poème pour la fille de Victor Hugo, qu'il écrit pour sa fille Léopoldine, qui est morte noyée très jeune. Et c'est pour ça que d'ailleurs, lui, on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, se met au spiritisme, alors qu'il n'y croyait pas du tout, mais il veut tout tenter pour essayer d'avoir un contact avec sa fille.
Bah oui, c'est...
Et en fait, ce contact, il l'a par la poésie, finalement.
Mais c'est magnifique, mais c'est vrai que j'ai une anthologie de la poésie française quelque part. Je ne sais pas si c'est celle de Pompidou, mais j'adore la poésie de plus en plus, alors que je détestais ça, parce que j'ai du mal à comprendre.
Parce qu'il n'y a rien à comprendre, peut-être.
Bah, c'est ça, mais maintenant, ça me plaît d'aimer juste les mots. Et puis, voilà. Et puis, il y a toute la partie sur l'économie aussi, parce qu'en ce moment, je fais un documentaire.
Sur l'économie?
Sur l'économie, bah, vous voyez, tout sur l'économie.
Ah, dans vos livres, je pensais que vous parliez de l'économie en poésie.
Non, ça c'est
une branche que je ne connais pas.
Non, l'économie en poésie, on n'y est pas. On y est pas
et pourquoi vous avez de l'économie?
Parce que moi, j'ai fait des études d'économie, en fait, et j'essaye de comprendre pourquoi le capitalisme nous a amenés à être aussi malheureux, finalement, alors qu'on nous avait vendu le bonheur grâce à la consommation, et auquel, on a tous un peu cru, voire beaucoup. Et puis, finalement, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Et du coup, j'essaye de retisser les fils et me dire où est-ce qu'on a merdé.
Et vous allez en faire un film?
Je vais en faire un documentaire.
Documentaire.
Ouais. Donc, je me suis replongée dans les bouquins d'écho.
Il y a les plus belles histoires de la mythologie, encore de la mythologie.
Ouais, mais ça, c'est les histoires que je lisais à mes enfants. Là, il y a un livre américain incroyable qui s'appelle Warm Awakening.
Où ça,
c'est le gros rouge, là.
Ah oui.
Alors ça,
WOMB,
c'est
WOMB,
ça, ça parle de la matrice magique que sont les utérus des femmes. Uh-huh. Et ça apprend vraiment à être en relation avec son utérus comme une matrice de l'humanité. Et c'est vraiment fascinant.
WOMB, ça veut dire quoi?
L'utérus.
D'accord.
Ouais. Voilà, vous avez appris un mot aujourd'hui.
Bah ouais, plein.
C'est pas mal. En anglais.
Je vois du Ken Follett derrière.
Ouais, Ken Follett, j'ai adoré aussi. Bon, surtout
les piliers de la terre.
Les cathédrales.
Les piliers de la terre.
Ça, c'était vraiment. C'est un livre qui m'a complètement transporté. Alors, il y a un livre de Philippe Guimand, qui est un physicien quantique, parce que j'ai une passion, comme on peut voir dans I Love America, je parle beaucoup de physique quantique. Et donc, il y a un grand physicien quantique en France qui s'appelle Philippe Guimand. Et ça, c'est le roman qu'il a écrit pour nous faire comprendre la physique quantique qui s'appelle Le pic de l'esprit, là-bas.
Et qu'est-ce que ça nous dit ?
Ben, ça nous dit que, en fait, lui, il parle de deux possibilités. Il y a le futur ou le foutur. Parce qu'en fait, si, selon comment on pense notre futur, eh ben, soit c'est un foutur et on est foutu parce qu'on pense D'accord. qu'on est foutu, soit c'est un futur, mais pour ça, il y a des choses à transformer à l'intérieur de soi.
Et qu'est-ce qui vous fascine tellement dans la physique quantique ?
Bah, le fait que en fait on a un monde où on se fait bien bien chier la vie parce que on est sur des physiques matérialistes et newtoniennes, et en fait on se rend compte que ces lois là ne sont pas les vraies lois de l'univers ni de l'humanité, mais on continue à les subir et on a vu où ça nous a mené. Et en fait la physique quantique nous explique une espèce de simultanéité entre la cause et l'effet, et on aurait une toute autre vie et on ne serait pas complètement borné avec un matérialisme débile.
C'est la dimension philosophique de la physique quantique qui vous intéresse, voilà. Le chat Schrödinger et tout ça.
Voilà, voilà.
Mais vous touchez un peu, enfin, c'est hyper compliqué, non ?
Bah, c'est pour ça que ça m'intéresse d'essayer de comprendre. Il me reste du temps avant de mourir, j'aimerais bien comprendre. Et puis, mon grand-père était physicien quantique et il essayait de prouver l'existence de Dieu par des calculs de physique. Et j'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Alors peut-être que c'est lui qui me parle à travers mes lectures ou je ne sais pas.
Il a réussi ou pas ?
Bah, il est mort avant, mais oui, il a réussi. Il a écrit son livre, mais il ne s'est jamais fait publier. Puis depuis, je pense qu'ils ont trouvé d'autres choses. Hein, parce que...
Vous l'avez lu ?
Non, parce qu'il est écrit à la main et c'est impossible à comprendre. Ah. Et c'est ma mère qui avait le manuscrit.
On vous laisse déchiffrer. Merci beaucoup, Lisa Azuelos.
Merci beaucoup.
Et chez vous, Dominique Bord, tiens, je me suis toujours demandé comment elle est la bibliothèque. Est-ce que ce sont que des livres très beaux comme vous fabriquez ? Ou est-ce qu'il y a tout ? Ou est-ce que vous évacuez les livres au fur et à mesure ? Dites-nous un peu.
Alors, il n'y a pas de livres. Il y a pas, en tout cas, pas dans ma chambre, hein, pas même dans mon salon. Genre, en fait, je peux pas. Au bout d'un moment, j'ai saturé. J'ai besoin d'avoir des moments dans la journée où je suis pas entouré de livres. Et surtout, il y a pas les miens. Je déteste les voir.
Oui.
Je déteste voir parce que je vois que les défauts.
Mais pour en donner aux copains qui passent et tout.
J'ai pas d'amis. Non, je plaisante. Non, si, et j'attends d'eux qu'ils aillent les acheter. Ça va pas.
En plus. Ouais.
Ouais, bah, bon, s'ils sont des vrais amis, ils vont les acheter et les lire surtout. C'est ça qui compte. Non. Après, j'ai des livres de passage en fait qui cohabitent avec moi le temps que je les lise. Et ensuite, je leur trouve un rangement ailleurs que dans ma maison. Plutôt généralement dans mon bureau où ils sont. Parce que c'est vrai, j'ai besoin de moments de relâcher la pression des livres sur moi.
C'est la première fois que j'ai cette réponse-là et c'est ça ce qui me plaît chez Dominique Bord. Chez Monsieur Toussaint Louverture, c'est toujours étonnant.
La Voix est livre.
Nicolas Caron.
La Voix est livre, toujours avec Dominique Bord, le fondateur de la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture. Nous partons chez notre libraire, Sandrine Babu, à la librairie L'Instant. Bonjour Sandrine.
Bonjour Nicolas.
Alors, deux coups de cœur aujourd'hui et on commence par un livre avec une couverture très sobre et très belle.
Tout à fait. Donc, c'est L'autre femme de Mercedes Rosende chez Kidam Éditeur. Parce qu'en fait, là, je vous emmène en Amérique du Sud pour les deux livres. Donc, ça se passe en Uruguay. Donc, c'est un polar assez caustique, assez drôle. Donc, l'héroïne qui s'appelle Ursula, c'est une très drôle, très touchante. Elle est un peu malmenée par la vie, un peu frustrée. Elle est grosse, elle n'assume pas bien ça. Elle voit que le regard qui est porté sur elle, évidemment, il n'est pas très bienveillant. Et elle en parle avec vraiment beaucoup d'humour. Et donc, elle va faire l'objet d'un quiproquo, parce que quelqu'un, un jour, va l'appeler en disant qu'ils ont enlevé son mari. Bon, elle n'a pas de mari, donc forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, elle va se servir de ça pour essayer de se faire un peu d'argent, de sauter sur l'occasion pour se venger un peu de tout ce qu'elle peut vivre. Et alors, les kidnappeurs, ils sont vraiment foireux. Hein, donc, on est entraîné. En fait, ça se passe sur 7 jours. Donc, voilà, on suit le roman sur 7 jours. Il y a des rebondissements. On sourit beaucoup. L'écriture, elle a beaucoup de formules très bien trouvées, très prenantes. Et donc, on va voir ce qui va arriver de cette situation assez rocambolesque.
L'autre femme, donc, chez Kidam Éditeur, signée Mercedes Rosende. Le traducteur ou la traductrice ?
La traductrice, c'est Marianne Million.
Parfait. Et un autre, toujours en Amérique du Sud, c'est Paradise, P-A-R-A-D-A-I-T-R-E-M-A-Z-E, de Fernanda Melchor.
Tout à fait, et c'est chez Grasset. Donc, on est au Mexique, on est dans une résidence pour gens très aisés, c'est une belle résidence avec les piscines. Et donc, dans cette résidence, il y a un adolescent qui est complètement obsédé, déjà par la pornographie, obsédé par sa voisine qui est belle, qui a des jambes interminables, voilà, donc il fantasme sur cette femme. Et il entraîne donc le jardinier Polo dans une espèce de course en avant très violente et un projet qui touche à cette femme. Donc ils veulent la cambrioler, voire plus. Et donc c'était une charge très très violente, très crue. Contre le machisme, contre la pornographie, contre les ravages de l'argent. C'est un long monologue, en fait. On est dans la tête de Polo et on se dit, mais est-ce que vraiment ce qu'on imagine va arriver ? Donc, on atteint une sorte de paroxysme. Voilà, donc, à ne pas mettre entre toutes les mains, s'il vous plaît. Mais vraiment, l'écriture est extrêmement brillante. C'est vraiment un roman dont le style est impressionnant.
C'est bizarre parce que la couverture, elle est très colorée, un peu flashy. On a l'impression qu'on va s'amuser, mais pas du tout, quoi.
On s'amuse pas. Par contre, on le lâche pas. Impossible.
Donc, c'est une sorte de polar.
Ouais, c'est un polar. C'est un polar parce qu'on attend le dénouement et on se demande jusqu'où on va nous entraîner. Ça fait un peu penser à Parasite, le film. Voilà, je n'en dis pas plus.
Ah, c'est un roman d'ambiance, comme ça.
Ouais, d'ambiance et de tension.
Merci beaucoup Sandrine. Et donc Paradise de Fernanda Melchor chez Grasset, traduit par
Laura Alcoba.
Parfait. Et on a dit L'autre femme de Mercedes Rosende, c'est chez Kidam Éditeur. Merci beaucoup Sandrine.
Merci Nicolas.
Et Sébastien Bordenave nous a rejoint avec ses deux bandes dessinées. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Je vous présente Dominique Borde.
Enchanté.
Qui publie Blackwater, dans lequel il y a une des trois familles riches et il y en a une qui s'appelle De Bordenave.
Ah.
Donc j'ai pensé à vous pendant toute ma lecture.
Je ne
remercie pas. Quel programme pour vous ?
Eh bien, deux BD aujourd'hui, deux BD tout public, sans subversion ni violence excessive. Promis, je me rattraperai dans 15 jours.
Ça
ne vous ressemble pas. Ouais. Je me rattrape dans 15 jours. Pour commencer, une très belle BD portée par des couleurs douces et feutrées, sublimées d'un graphisme confortable et chaud, avec des personnages aussi attachants qu'originaux. Ça s'appelle Voleuse. On le doit à la talentueuse Lucie Brion. C'est d'autant plus bluffant de maîtrise que c'est son tout premier roman graphique. L'histoire est toute choupie. C'est l'année du bac pour Ella, une année importante, mais elle ne vit que pour le jeudi. Parce que le jeudi, elle a un cours en commun avec Madeleine. Madeleine, elle a de ravissantes petites taches de rousseur. Ella fond complètement. Résultat, elle fait ce que tous les jeunes font aujourd'hui. Eh ben, elles vont sur Instagram pour l'espionner et tenter de se connecter dans tous les sens du terme
c'est pénible.
Ella, elle est invitée dans une soirée où Madeleine est présente. Problème, elle boit trop, elle se réveille le lendemain matin chez elle et visiblement, elle a volé des objets dans la maison où s'est passée la soirée. Elle se souvient de rien et pompon de la pomponnette, la maison où elle a passé la soirée, eh ben c'était chez Madeleine. Voleuse est franchement un petit bijou dessiné avec de subtiles trouvailles graphiques. C'est la BD idéale pour un public de jeunes adultes, mais néanmoins exigeant.
C'est vrai que ça a l'air joli. Et le deuxième, c'est un manga ?
Alors,
c'est comme ça qu'on appelle ça ?
On appelle ça un shonen.
Un shonen ?
Là, c'est un shonen. Alors, qu'est-ce que c'est un shonen ? Eh ben, c'est un manga qui s'adresse plutôt à des personnes âgées de 8 à 18 ans et qui ont plutôt un sexe masculin. Et c'est vrai que Banana Soul, tome 1 de Michael Sanslaville, est ultra vitaminé, testostéroné
et
méga...
C'est pas très moderne de genrer comme ça, les lectures.
Ah bah là, vous allez voir, c'est très très testostéroné et méga séquencé. C'est un peu comme un dessin japonais. D'ailleurs, on se surprend à vivre avec son corps les dessins quand on les regarde. C'est-à-dire que quand les héros courent, eh ben on court en pensée avec eux. Pareil, quand ils sautent, quand ils se prennent des pêches. Oui, parce que c'est quand même une BD assez dangereuse car les héros jouent à la Soul.
Ah, c'est l'ancêtre du foot, ça. C'est très, très violent.
Oui, un petit peu. Ça vient de là. En fait, il y a une règle à la Sioule, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors, dans la BD, c'est une sorte de rugby où il faut mettre une balle de foot dans un rond. Les joueurs de Sioule sont des stars absolues. Elena, l'héroïne de la BD, travaille à la ferme avec son père. Et au détour d'une partie, elle se découvre un don incroyable pour la Sioule. Mais est-ce que ça va suffire pour entrer à l'ESS ? Suspense.
C'est aussi une très belle rivière en Auvergne, la Sioule, qui fait la frontière entre le Puy-de-Dôme et l'Allier.
Un petit mot sur l'auteur de la BD, Mickaël Sanslaville. On lui doit aussi, avec Vivesse et Balak, Last Man, une BD en 12 tomes qui a été adaptée en série. Je vous en parle parce que c'est génial. Et ensuite, parce qu'on parle souvent de ce genre de BD comme étant le nouveau manga à la française. Mmh. C'est pas faux, mais moi je préfère la définition que les auteurs de Last Man ont eux-mêmes trouvée. Ils disent on est au manga ce que les brochettes bœuf fromage sont à la cuisine japonaise. Voilà, je trouve ça plutôt rigolo.
J'aime bien aussi. On récapitule.
Voleuse de Lucie Brion, publiée chez Sarbacane, et Le Banana Sioule de Mickaël Sanslaville chez Glénat. On vous offre les deux, Dominique Borne, j'espère que ça vous fait plaisir.
Ah ouais, carrément.
On se quitte avec la fameuse citation BD de Charlie Brown et Lucie. Vous savez, le petit garçon et la petite fille qui accompagnent souvent Snoopy. Le petit garçon dit « Tu fais quoi dans la vie ?» Lucie répond « Je poursuis des émotions, je trébuche dans des regards et je collectionne des cicatrices. » Voilà, bon dimanche. Magnifique.
Dominique Borne, vous êtes éditeur de romans surtout, mais vous avez aussi commis un roman graphique qui est cartonné. C'est un roman graphique, non ? Moi, ce que j'aime, c'est les monstres.
C'est une bande dessinée, oui. C'est un support dessiné.
D'ailleurs, quelle est la différence ? J'ai jamais trop compris roman graphique, bande dessinée. Est-ce qu'il y en a vraiment une ?
Moi, j'en vois pas.
C'est
mais
plus chic de dire roman graphique ?
Je pense que c'est peut-être une création marketing pour permettre de toucher un autre public avec le terme roman, mais moi, je vois pas. C'est des bonnes histoires, que ce soit Voleuse ou que ce soit les monstres. Il n'y a pas de... Moi, je ne fais pas de distinguo. Je suis éditeur, j'édite des histoires, je ne cherche pas de...
Avec ou sans images. Et là, il n'y a pas d'image, mais c'est magnifique. Il y a des très belles images en couverture. C'est Blackwater, donc en 6 épisodes, tous les 15 jours en librairie jusqu'au mois de juin. J'étais ravi de vous recevoir, Dominique Borne.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpech pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.